Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Une émission produite par Richard Federman.
Connaissez-vous un proche qui connaît la dépression et qui rencontre des problèmes relationnels? Avez-vous connu le burn-out? On a tous connu un sentiment d'abandon un jour. Ne plus savoir vers qui ou vers quoi se tourner. Il y a des moments où la vie nous présente des choix. Saisir cette chance pour certains est une offrande de la vie. Et pour d'autres, ils ne verront qu'un cliché. Je suis parti au nord de la Thaïlande pour être témoin d'une expérience incroyable à New Life Foundation. Ce centre est né pour les personnes dépendantes de la drogue ou d'une addiction à l'alcool. Aujourd'hui, New Life a ouvert ses portes plus larges sur les problèmes du monde. Pourquoi venir jusqu'ici? Qu'est-ce qui attire des personnes de 20 à 60 ans à New Life Foundation? Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, Julien était moine dans un monastère de réhabilitation à Bangkok, où il s'était guéri d'une addiction à la drogue. C'est là qu'il a rencontré Johan, un entrepreneur très fortuné qui lui-même venait se guérir d'une addiction à la cocaïne récurrente. Par reconnaissance, pour sa guérison, Johan a acheté 65 hectares dans le nord de la Thaïlande pour établir un centre de réhabilitation dont Julien est devenu le directeur. Je vous invite à rencontrer des êtres uniques dans Messages de vie, la série d'émissions du Voyage intérieur, que vous pouvez soutenir en allant sur notre site www.richardfederman.com. Je vous souhaite de faire un beau voyage.
As you begin your next inhale, begin to move with the breath, following the breath up as you raise your arms from the sides, moving like a very elegant machine, reaching up at the top and opening the heart, enjoying the life-giving breath at the top and holding.
Philippe, qu'est-ce qui t'a amené ici à la Fondation?
Alors, moi j'étais très malheureux, j'habitais à Montréal et j'étais pendant très longtemps pas heureux du tout. Alors j'avais une vie normale, enfin presque normale, j'avais une copine, j'étais marié, mais toute ma vie j'ai fait des choses une après l'autre, toujours dans le but d'essayer d'être plus heureux. Et ça n'a jamais vraiment marché. Et puis bon, venir ici, c'est une tentative de plus de trouver quelque chose en moi qui... trouver une espèce de... ma maison intérieure, si tu veux, mais le Bouddha parle de ça, l'île à l'intérieur de soi qui... à travers la méditation. Donc c'est un peu ça que je suis venu chercher ici, entre autres, mais principalement ça.
Est-ce qu'on peut trouver quelque part ce qu'on n'a pas chez soi, ailleurs?
Tu poses une bonne question. La première que tu as posée, c'est est-ce qu'on doit aller partir loin de chez soi pour trouver ce qui nous appartient déjà? Évidemment, dans l'absolu, la réponse est non. Si on l'a déjà, en principe, on devrait pouvoir le trouver n'importe où. Puis on apporte nos bagages avec ça. Hein. On peut pas aller à l'autre bout de la planète sans apporter nos valises avec nous. Alors, en principe, la réponse est non. On n'a pas besoin de venir en Thaïlande où on peut parfaitement rester à Montréal ou à Paris ou n'importe où. Dans la pratique, il y a peut-être certains outils qu'on peut trouver ailleurs ou certains environnements qui sont favorables. qui peuvent nous aider, mais il faut rester conscient du fait que c'est pas le... On trouvera pas quelque chose à l'extérieur de soi. Ce qu'on cherche, et on le porte déjà maintenant, c'est comment y accéder, non? Alors, moi, pourquoi je suis venu ici? Ben, c'est parce que j'aimais la formule. J'aimais la formule. C'est une formule qui combine plusieurs éléments qui m'interpellent. Alors, l'agriculture bio, travail physique avec travail intérieur. Essentiellement, c'est le combo gagnant pour moi, je trouve. Ici, j'ai l'occasion de faire du travail sur moi-même avec des coachs, des thérapeutes. Et dans un environnement communautaire, on est une cinquantaine de personnes ici, tout le monde travaille sur soi. Et donc, il y a du travail communautaire. Alors, c'est une formule que je trouve vraiment intéressante et qui me permet de... d'être moins déprimé dans mon quotidien tout en faisant le travail sur moi.
Oui, effectivement, c'est pour moi un endroit à la fois pour partager avec une communauté, parce que ça fait un certain temps que je voyage toute seule. Et j'ai un certain confort, on va dire, dans ma solitude. Et j'avais besoin aussi de me challenger un petit peu dans la façon dont mes interactions avec les autres, et partager avec une communauté et m'enrichir par le biais de cette communauté. Et j'ai surtout un besoin aussi d'élargir mes horizons. Et c'est vrai que dès les premiers jours où je suis arrivée ici, je me suis sentie vraiment à la maison. Et avec une famille, vraiment. Donc je me suis dit que j'allais rester quelques temps ici.
En France, il n'existe pas une famille pour toi une grande famille qui te permet de rester? Pourquoi aller si loin pour chercher une autre famille?
Question intéressante. Bien sûr, j'ai des amis en France, mais je pense que pendant une grande partie de ma vie, il a été difficile pour moi de vraiment lier des connexions profondes de la façon dont je les conçois. Et surtout, à partir du moment où j'ai commencé à voyager, à élargir mes horizons et à découvrir de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de penser, chacun de mes retours de voyage a été de plus en plus difficile, parce qu'il est important pour moi de partager ce que je vis, et que j'ai et pas toujours évident pour moi de le partager avec des mots, et j'arrivais pas à partager cette passion et l'intensité de ce que je vivais à l'étranger, des rencontres que je faisais et de ce que ça m'apportait, à quel point ça me nourrissait. Et c'est vrai que ma vie en France m'a éteinte. Je me suis sentie de plus en plus vide, et voilà, j'ai suivi mon intuition et j'ai été chercher la lumière où je l'avais trouvée.
Les pieds bétonnés dans le ciment, le regard vers l'infiniment grand. Siècle 21, prison de peur et d'illusion. Ils aimeraient nous faire croire que nos vies ne valent rien. Enfants déracinés, enfants des grands ensembles, élevés dans la violence du système, aux rêves brisés sous le poids de leur schéma. Perdus au cœur de la machine, il nous reste cette flamme, souffle de vie pour éclairer le chaos de leur monde. Parachutés dans l'histoire, enfants de la terre, prisonniers du ciment, ne perds pas de vue les étoiles. Entre la rage et la foi, entre la souffrance et l'espoir, entre la haine et l'amour, entre la rancœur et le pardon, entre le système et la vie, entre nos peurs et nos aspirations, entre la terre et le ciel, tiraillés dans une dualité permanente, entre ciment et belle étoile.
Qu'est-ce qu'on ressent quand... Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout, mais qui ressentent un certain manque. On s'imagine que c'est un manque réel. On s'imagine que le manque est réel. Moi, j'ai beaucoup cherché et je crois que c'est une illusion. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de manque. C'est l'impression d'un manque. Et l'impression vient d'un manque... L'impression du manque vient d'un manque d'amour de soi. C'est-à-dire que je m'imagine qu'il me faut un boulot, une femme, une maison, ou alors quelque chose de spirituel. Il faut que je trouve quelque chose à l'extérieur de moi pour combler un vide intérieur perçu. Non? J'ai l'impression d'avoir un vide intérieur. Je m'aperçois que, en fait, il n'y a pas de vide intérieur. C'est plutôt un manque d'amour de soi. Alors, comment s'aimer? C'est l'acceptation de qui on est. Acceptation de sa personnalité. Pas acceptation de l'absolu et tout. Ça, c'est toujours là. Puis ça reste inchangé. Mais ce qui cause la misère, c'est vraiment l'acceptation du quotidien, de sa personnalité, les habitudes de tous les jours. Hein. Ça peut être des habitudes, non? Des façons d'être. C'est des blocages, blocages du cœur, non? C'est juste... c'est ça, le manque d'amour de soi. C'est un rejet de certains aspects de soi-même. Et ce rejet-là prend souvent la forme de croyances qu'on a apprises à différents moments de notre vie. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Là, on peut croire qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez bon, pas assez beau, pas assez grand, hein, trop comme ci, pas assez comme ça. Hein. Moi, dans mon cas, c'est la croyance que je suis ennuyant, que je suis insignifiant. Alors, cette croyance cause un manque d'amour de soi qui cause l'impression du vide et une espèce de désespoir. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est tout simplement des croyances. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide. C'est une illusion. La réalité, c'est des croyances. On a des croyances.
Message de vie. Donner à comprendre.
Et donc, oui, moi, je travaille avec les gens pour trouver les beliefs.
Les croyances.
Core, à fond. Yeah?
Mm-hmm.
Profonde, but like really formative. Mm-hmm. Yeah? Les choses qu'on se croit de soi-même, mm-hmm. yeah? qui dirige ou contrôle notre behavior.
Notre attitude.
Comment on fonctionne dans le monde. Hein? Qu'on apprend souvent très, très tôt dans la vie. Hein? On a un an, deux ans, et on regarde, OK. Ça se fait comme ça, da-da-da-da-da, et on internalise ça. C'est comme, je sais comment parler, je sais comment marcher, je sais comment ça fonctionne, les interactions, maman, papa, da-da-da-da, OK, je sais. Et puis on oublie que c'est quelque chose qu'on a appris, hein? Et on vit la vie en fonction de ce qu'on a appris. Ouais? Et si on souffre, hein, on trouve un moyen de diminuer la souffrance. La souffrance, ouais. Et puis on généralise cette méthode, hein, pour OK, si ça marche dans cette situation, ça va marcher dans toutes les autres situations. Hein. Et pour un enfant qui n'a pas beaucoup de choix, de resources.
On pourrait dire la même chose, non?
OK. De choix, un enfant ne peut pas dire « Allez, moi je m'en vais, hein, je ne veux plus rester dans cette situation, hein, tu es obligé de rester là. Hein. » Et donc, hein, tu gardes ce méthode de protection très fort. Hein. Et puis aussi, on oublie qu'on a appris quelque chose. On grandit, on utilise les mêmes choses. Hein. There's a saying, yeah, what protects us as a child imprisons us as an adult.
Ce qui nous protège en tant qu'enfant nous emprisonne en tant qu'adulte.
Yeah. And we wonder why. We wonder why, you know, age 30, 40, 50, why do we keep behaving like this? Why do we have difficulty with the relationship? Why do we keep being unhappy? Why, you know, it's like, if it was to do with the conscious mind, then we could just decide, right, I'm going to do it differently. But it's not the conscious, it's much, much deeper than that. You know, it's survival many, many times. So to...
Donc, et après on se demande pourquoi à 30, 40, 50 ans, on continue de faire comme ça. Si c'était vraiment conscient, on se dirait, mais non, c'est pas quelque chose que je vais faire. On continue de répéter ces schémas qui, en fait, nous emprisonnent.
Yeah. pas toujours facile, hein. et avec la méthode que j'utilise, on focus l'attention sur ce qui se passe dans le corps, ouais, parce que we embody.
On incarne un peu.
Tout ce qui se passe dans le corps. Et donc, s'il y a des tensions, des gestes, des postures, c'est l'histoire, c'est notre histoire qu'on porte. Hein? Quand on apporte pleine conscience, il y a beaucoup d'informations là. Hein?
Inhale and exhale. Inhale gratitude and exhale all resistance. Inhale all your joy for living and exhale all negativity and fear.
Moon river, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. You dream maker, you heartbreaker, wherever
intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Une émission produite par Richard Federman.
Julien, comment l'histoire de la fondation a débuté?
Well, I used to be an
addict. Donc, j'avais une addiction moi-même pendant longtemps.
When I was younger,
quand j'étais plus jeune, Beaucoup d'autres problèmes aussi. J'étais un voleur, j'étais un menteur terrible. Je suis allé à de nombreux centres de réhabilitation, passé par plein de sortes de centres de détoxification de psychologues, mais rien n'a vraiment semblé marcher. Rien ne m'a inspiré à devenir clean, à être sobre, à changer mon style de vie. Donc, quand j'ai eu 24 ans, je me suis retrouvée en prison, j'étais dans la rue et mon père m'a donné une dernière chance. Il avait entendu parler d'un centre de détoxification ici en Thaïlande qui est dans un monastère qui est très spécial. C'est différent du centre de réhabilitation normal. Il y a beaucoup de... Les conditions sont dures. C'est géré par des moines bouddhistes. Donc là-bas, j'étais très intéressée par le bouddhisme. J'ai senti que c'était quelque chose qui pouvait me donner la force, qui pouvait m'inspirer à changer ces habitudes qui m'ont causé autant de douleurs et de douleurs à mes parents, à mes amis. Donc je suis devenue un moine pendant 8 ans. Parce qu'en parlant avec l'abbé là-bas, même après avoir été clean et sobre, je me sentais encore vraiment malheureux. Je ne savais pas de quoi faire de moi-même. Donc j'ai parlé avec l'abbé. Il m'a dit, voilà, si tu veux vraiment changer quelque chose, il faut que tu deviennes un moine pendant la durée de temps où tu as une addiction. Donc, dans le monastère, j'ai appris à propos de la pleine conscience, j'ai travaillé. Et à la fin de mon séjour, j'ai vraiment senti, j'aimerais vraiment offrir ce que j'ai appris dans le monastère à tous ceux qui en ont besoin, parce que c'est tellement puissant, ces outils de pleine conscience sont tellement puissants pour changer. Et c'est vraiment difficile de trouver quelque chose qui nous donne l'énergie de changer ses habitudes, qui cause tellement de douleur aux autres. Donc, je voulais partager ça. Donc, c'était de penser, comment pourrais-je partager ça? Et puis, Johan est arrivé. Il est de Belgique aussi. Il avait une addiction à la cocaïne. Il est venu au monastère quand j'étais un moine pour une détoxification. Il est très fortuné. C'est un entrepreneur. Et il avait tellement de reconnaissance pour tout ce que le monastère lui a offert. Il avait tout essayé dans des centres de réhabilitation tout autour du monde. Et il voulait vraiment partager une partie de sa fortune pour aider d'autres personnes à se guérir. Donc, Johan a offert toutes les finances qui étaient nécessaires pour faire ce bâtiment. Et même la première année, il a continué à nous soutenir parce qu'on n'avait pas de revenus. Et maintenant, il est toujours le fondateur et le président de cette organisation. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on est arrivé là. Une fois ici, on a aussi décidé d'ouvrir cet endroit non seulement à des gens qui étaient en guérison d'addiction, mais également à des gens qui avaient des problèmes de troubles alimentaires, de la dépression, qui étaient super stressés, ceux qui cherchaient à quelque chose d'autre dans leur vie, quelque chose de plus spirituel. On a vu qu'il y avait beaucoup de douleurs et de difficultés. Et comment aider ça.
Et aujourd'hui, quel est le résultat de ces années écoulées depuis 3 ans? Quels sont les résultats? Est-ce que les gens restent, se guérissent? Quel est le résultat de toutes ces personnes qui passent à la fondation?
Ça a été difficile. Il y a eu des défis. 3 ans, mais ça a été aussi très beau. Il y a tellement de gens qui sont venus ici pour apprendre, pour grandir, pour partager leurs capacités, leurs compétences, leurs expériences. Et j'ai vu tellement de gens qui ont grandi ici, qui ont changé. Ces 3 ans ont été vraiment parmi les plus belles années de ma vie. Donc je suis vraiment reconnaissant de pouvoir faire partie de ça, de ces voyages, de ces changements. Pour de nombreuses personnes qui sont venues là et qui cherchent vraiment le changement, ils trouvent ce qu'ils sont venus chercher. Les outils que l'on offre ici, qui sont la pleine conscience, mais aussi la vie en communauté, vivre dans une communauté consciente, les gens le trouvent vraiment très, que ça les soutienne. Et c'est vraiment le début d'une vie complètement nouvelle pour de longues pour de nombreuses personnes. Et les gens restent en contact les uns avec les autres. Et ça montre que les outils que l'on donne sont vraiment efficaces et aident vraiment à changer ces habitudes qui ont causé tant de douleurs.
Entre ceux qui sont dépendants ou qui ont une addiction, les volontaires et les résidents, ceux qui viennent pour changer de vie, pour être coachés, tout ce monde cohabite ensemble. Est-ce qu'ils arrivent à trouver un équilibre ? Parce que ce n'est pas les mêmes problèmes.
Quelquefois c'est difficile. Je crois qu'une de nos forces, c'est que nous avons cette alchimie, cette dynamique, cette énergie de tant de gens qui viennent du monde entier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, de milieux différents, de cultures différentes, et qui ont des problèmes différents, des expériences différentes et qui s'aident, qui s'entraident. Et bien sûr, il y a des problèmes, mais même quand il y a des problèmes, c'est toujours une occasion d'apprendre quelque chose, de grandir. Et je pense que c'est vraiment une de nos forces. C'est que nous nous occupons uniquement des gens qui souffrent d'addiction, mais également il y a des bénévoles, et il y a des gens qui viennent avec plein d'autres problèmes. Et c'est vraiment notre point fort.
Le fait d'être dans un cocon, une maison, un ensemble, parce qu'on est en plein milieu d'un village en Thaïlande, donc c'est un milieu occidental au milieu de la Thaïlande, quelque part dans le nord. Quand on part d'ici, est-ce qu'on a les possibilités, les outils qui nous permettent de continuer le chemin ? Parce que dès qu'on est... conforté dans un lieu, on n'a plus envie de le quitter. Est-ce qu'on peut quitter sa maison ? Est-ce qu'on peut quitter la maison qui nous a aidé à trouver une nouvelle vie ?
C'est une très bonne question. Et d'abord, pour les résidents ici qui viennent pour le programme, c'est-à-dire que graduellement, ils reçoivent de plus en plus de liberté pour faire leurs propres horaires, pour commencer leur propre pratique. Donc au début, il y a beaucoup de structures dans notre programme, beaucoup d'activités obligatoires et aussi beaucoup de soutien. Mais graduellement, il y a de moins en moins de support. On les guide quand même et les coachs de vie les aident. Mais ils les aident à mettre en place leurs propres horaires, leurs propres programmes. Pour qu'ils puissent l'emmener dans leur vie de tous les jours quand ils rentrent. Et également, avant qu'ils repartent, on leur donne beaucoup de conseils pour trouver des façons, des soutiens quand ils rentrent chez eux. Parce qu'il y a tellement de centres de méditation tout autour du monde. Il y a des centres de 12 étapes, des communautés. Donc, c'est possible de rentrer chez soi et de trouver quelque chose de similaire. Et pour les gens qui veulent se soutenir les uns les autres.
Quelle différence entre les centres de réhabilitation en Europe et la fondation en Thaïlande. Pourquoi venir ici et pas commencer là-bas ?
C'est une bonne question aussi. Il y a beaucoup de raisons. La première, c'est que nous avons cette communauté de gens du monde entier avec des milieux différents, des expériences, c'est une de nos forces. Mais également, notre programme est très différent des autres programmes. Il est basé sur la pleine conscience et la vie de communauté. Et en plus de ça, ce qui est vraiment important, notre force, c'est que les gens qui vivent ici, qui travaillent ici, qui partagent leur expérience, le staff, les thérapeutes, et tous les gens qui travaillent ici, on est tous passés à travers ce processus. On est passé à travers la douleur nous-mêmes et on a trouvé une façon de s'en sortir basée sur la pleine conscience. Et donc, il y a beaucoup de compassion dans notre staff et c'est ce qu'on partage ici aussi. Vous avez sans doute vu que les gens qui travaillent ici le font vraiment à partir de leur cœur et que les gens qui viennent ici pour les traitements peuvent le sentir. Ils sentent que les gens offrent ce qu'ils offrent à partir du cœur. Ils s'occupent vraiment d'eux. Ils ne font pas juste leur travail. C'est pas juste quelque chose qu'ils ont appris à l'université.
Et voilà quoi. Et donc je suis arrivé ici pour 2 mois. Et puis je suis resté. Là ça fait. Je suis arrivé le 22 octobre 2012. Donc ça fait quelques temps déjà. Donc je suis resté, j'ai fait leur programme. Alors bien sûr, ça me plaisait pas. C'est pas très agréable, hein, ça c'est clair quoi. Il y a des choses que je n'aime pas. Les trucs trop new age, c'est pas mon. Je suis plus terre à terre, donc du coup j'ai fait l'horreur système, j'ai fait le programme alcoolique anonyme ou narcotique anonyme, les 12 étapes là. Ça m'a bien sorti de ma misère, de ma. Comment on dit ça? Disons que je me complaisais dans ma misère d'une certaine manière, c'était mon identité, donc je m'en suis rendu compte ici, ce qui était une grande étape finale quoi. Plutôt que de balancer sur les autres en disant que c'est leur faute, au final, tu sais, oh merde. Peut-être qu'en fait, je me complais là-dedans, que je fais tout pour y rester, parce que j'ai trop peur d'en sortir. C'est pas agréable à réaliser, ça c'est sûr. Ça fait vraiment chier. Hein. Donc je suis resté, j'ai fait tout ça. J'ai fait 5 mois et demi de résidence, ou de semi-résidence à un moment, parce que les statuts changent. Et après, j'en ai eu un peu marre. En fait, au début, quand je suis arrivé 2 mois, j'avais déjà peur de partir, si tu veux. Et donc j'ai tout fait pour rester, mais par peur, donc c'était plutôt négatif. Je suis resté ici par peur d'aller dehors, et au bout d'un moment j'ai plus eu peur d'y aller dehors. Je me suis dit, oh bah, ouais, mais je crois qu'il est temps de faire quelque chose quoi. Et donc un pote m'a proposé de faire moine, de faire un pèlerinage à le Tudong, ils disent, où tu te balades avec une ombrelle, tu dors sous l'ombrelle et tu manges une fois par jour, et puis tu fais des 20 km par jour sous le soleil là. En récitant des mantras, et bon, c'est plus compliqué que ça, plus spirituel que ça, je banalise, mais. Et donc j'ai dit, ok, pas de problème, pareil quoi, pas de problème, je veux même pas savoir comment ça se passe, j'y vais. J'y suis allé, et en fait, c'était le monastère où ils font une détoxification ici, où tous les gens viennent du monde entier en fait pour se faire vomir, et suer et tout ça dans un monastère, c'est un peu extrême, il y a pas mal de reportages dessus. Et donc j'ai fait mon pèlerinage, c'était 24 jours, j'ai perdu 23 kilos, c'est complètement insensé. Et je me suis dit, ben c'est un peu trop court et je vais rester au monastère. Donc je suis resté 3 mois à bosser dans le centre de détox, actuellement. C'était assez intéressant. Donc il y a beaucoup de gens ici qui viennent de ce centre d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a été créé cet endroit en fait, c'était pour accueillir les gens qui sortaient du centre. Et donc je suis revenu, j'ai commencé à faire du volontariat ou du long term volunteer, comme ils appellent ça, le volontaire à long terme, où tu fais partie du staff, t'es pas payé, mais c'est pareil quoi, t'as toutes les responsabilités, sans les avantages. Comme la plupart des gens le font ici d'ailleurs, c'est ce qui est assez marrant quoi, les gens restent ici par peur. Ça me fait, mais les actions que je fais basées sur ça, sur cette peur, si tu veux, sont jamais bonnes, je le vois quoi, c'est pas... Il y a une répercussion, si tu veux, je le vois en fait, qui est mauvaise. Donc c'est subtil, je sais pas comment le... C'est pour moi la loi du karma, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que si j'ai pas une bonne intention, bizarrement, il y a des trucs à la con qui m'arrivent, quoi. Alors que quand j'ai des bonnes intentions, même si les actions sont moins spectaculaires, si tu veux, il y a quelque chose de moins intéressant intellectuellement, bien sûr, mais de plus apaisant, de plus paisible, en fait. Ce qui est le truc que je trouvais chiant au début, en fait, c'est le truc que je veux maintenant. Puisque moi, je voulais toujours aller très très haut, toujours très stimulant, et donc... Et pas rester là pendant 10 secondes à m'asseoir, je pouvais pas faire ça, quoi. Maintenant, c'est ce que je cherchais à faire, quoi. C'était cette paix dont j'avais peur. Ce silence, le silence, c'est par exemple un très bon exemple. J'aime bien le silence maintenant, quoi. Donc je vais vers ça en fait, plutôt qu'aller vers le non, je vais rester non, il faut que je fasse ça, oh il vient ici, oh il va faire ça, attends mais c'est mon poste, nanana. Là on s'en sort plus quoi. Et en plus on n'aide pas les autres personnes puisque tu rayonnes un petit peu tout ça, tu vois. Ça déteint en fait sur l'ambiance générale en fait, et donc du coup tu n'aides pas les gens quoi. Donc c'est pour ça que je bouge moi. Plutôt que de casser la gueule à 2-3 personnes, je vais aller ailleurs. C'est un peu ça. Et surtout qu'ici, on est tout le temps l'un contre l'autre. Alors, si t'aimes pas quelqu'un, c'est bonbon. Hein. C'est coton.
Donc, tu disais que tu voulais refaire une expérience de moine. Hein. C'est oui. Vraiment une... parce que tu as une conviction, tu sais qu'il y a quelque chose d'important pour toi en retournant là-bas.
Eh ben, oh, déjà parce que c'est le seul endroit où je dors comme un bébé. Et c'est... Je m'y sens bien, en fait. Même si c'est dur, c'est pas facile, évidemment, mais... Je m'y sens bien, en fait. À chaque fois que j'ai été dans un monastère, je me sentais bien. C'est que je savais que je faisais, ce que je faisais était bien, en fait. C'est ça, ce que j'ai quand même besoin. J'ai besoin, moi, que les gens me disent ce que tu fais est bien. Je suis toujours à la recherche de ça, évidemment. Mais quand tu fais moine, en fait... Quand je fais moine, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose de bien. C'est-à-dire que je pratique... tout ce qui me prend énormément d'efforts, genre méditer 2 heures par jour, ça me prend un effort de fou ici. Même si j'ai le temps, là-bas j'ai toujours le temps. Quoi. Même si j'ai moins de temps là-bas physiquement, là, j'arrive quand même à prendre plus de temps. C'est plus facile pour moi de me dire allez c'est parti, je le fais, même quand je vais pas bien, que ici où ici il y a trop de diversion, de choses. Ça j'ai du mal quoi, de gérer les diversions en fait, de prendre un moment de pause dans la journée. Je resterai bien. D'ailleurs, le truc, c'est que je resterai bien. Je ferai bien ça à vie. Le problème, c'est que j'ai toujours une partie de moi qui se dit, mais si tu fais ça, quand tu reviens dans la vie réelle, ben, comment tu vas faire? T'auras pas. C'est pas bon pour le curriculum. J'ai toutes ces choses qu'on m'a foutu dans la tête qui reviennent, quoi. Et ça m'empêche, en fait. J'arrive pas encore à savoir si elles sont toutes fausses ou il y en a quelques-unes qui sont vraies ou pas. C'est-à-dire, et c'est pareil, est-ce qu'aller là-bas, c'est pas une façon de s'échapper d'une certaine manière? Mais de la même manière que quitter ici, alors que ça devient très très dur, est-ce que c'est pas une façon de s'échapper? Donc j'en suis là à savoir à quel moment est-ce qu'on considère que c'est abandonné. C'est ce que je disais avec la douleur, c'est-à-dire à quel moment c'est une bonne douleur ou une mauvaise douleur? Est-ce qu'elle est constructive cette douleur ou la douleur de rester? Ou est-ce que c'est plus constructif d'aller ailleurs? Et c'est toujours, mais en général, c'est toujours dans le. Du point de vue du chemin, c'est-à-dire de path, comme tu dis. C'est-à-dire que cette histoire de boulot, famille, argent, tout ça, ça vient vraiment rarement. Quand ça vient, ça va être très fort, mais c'est assez rare. En général, ce que je pense, c'est plutôt au chemin. C'est le truc le plus important pour moi. Quoi. Donc ça, c'est tout le temps dans ma tête. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir continuer ce chemin? C'est le truc le plus important. Donc moine, oui, ça c'est clair. Le mieux ce serait on-off. Quelques mois, quoi. Je pense.
C'est possible ça aussi.
Ici c'est possible.
I built you a hospital that's impossible for anyone else to see.
Pausing at the top and enjoying.
It's where things like your history.
Depth of your breath.
You're the only patient, and I'm the only doctor there.
And exhale, slow and long.
We'll mother ourselves and let Dad take a nap in his chair.
Message de vie, donné à comprendre.
Tu parlais du bonheur, tu avais fait une présentation sur la psychologie positive. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Parce que c'est aussi l'état d'esprit de la fondation.
So I think one thing I noticed when I...
Ce que j'ai remarqué, quand finalement j'ai été clean, j'étais sobre après toutes ces années, c'est que ça ne s'arrête pas là. On ne se débarrasse pas juste de ces problèmes. J'étais encore quelqu'un de très malheureux. Je ne buvais plus, je n'utilisais plus de drogue. Mais j'étais encore vraiment déprimée, je me sentais malheureux, je me sentais vide à l'intérieur. Donc en général, les gens veulent plus que de corriger leurs faiblesses. Ils veulent être heureux, ils veulent avoir du plaisir, ils veulent avoir de la joie, de l'extase en eux-mêmes, ils veulent être optimistes, ils veulent avoir de l'espoir, être contents. Il y a tellement plus que de ne pas être déprimé, de ne pas être addicté à quelque chose. Et c'est ce que c'est là où la psychologie politique aide beaucoup. C'est quelque chose qu'on essaye d'appliquer ici. Parce que d'une façon très facile, on peut regarder, mais qu'est-ce que le bonheur? De quoi c'est composé? Comment peut-on construire le bonheur dans notre vie? Il y a des exercices que n'importe qui peut faire par soi-même. On n'a pas besoin d'un thérapeute ou un clinicien. C'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on regarde les différentes émotions positives et comment les cultiver dans notre vie. Comment est-ce qu'on peut être plus satisfait avec notre passé? Comment est-ce qu'on peut être plus content avec notre passé, avec le présent? Comment peut-on être plus heureux? Comment est-ce qu'on peut avoir plus de plaisir dans notre vie? Comment est-ce qu'on peut amplifier ces émotions, avoir plus de fluidité dans notre vie? Comment est-ce qu'on peut développer les forces de notre vie et pour le futur? Comment peut-on être optimiste, avoir de l'espoir en notre futur? Donc, nous utilisons ces exercices tous les jours, par exemple, pour tous ceux qui travaillent ici. On a ce qu'on appelle la méditation de travail. Ça donne à chacun une possibilité d'offrir ses compétences. Et il y a plein de tâches à faire ici, mais la plus importante, c'est d'offrir des actes de gentillesse inattendus. Donc, chaque personne, il y a une personne qui a le travail, on pourrait dire, de juste offrir leur gentillesse, d'offrir ça aux autres, avec ses compétences, avec son énergie, avec son temps, d'offrir quelque chose de façon inattendue à quelqu'un ou à plusieurs personnes de la communauté. Et c'est vraiment super. C'est très, vraiment sympa quand on le reçoit, mais également pour ceux qui l'offrent, parce que ça leur donne l'occasion de le faire, de partager ça, de partager leurs compétences, de partager sans attendre quelque chose en retour. C'est vraiment une très belle activité. C'est quelque chose qui vient très particulièrement de la psychologie positive. Ou de cultiver la reconnaissance. C'est tellement important. Chacun de nous, on tend à regarder ce que nous n'aimons pas, ce pourquoi nous ne sommes pas reconnaissants, ce qu'on veut changer, ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas, tout le temps. Et ça semble être beaucoup plus difficile pour nous de voir toutes les choses autour de nous pour lesquelles nous pouvons vraiment avoir de la reconnaissance, ceux qui nous aiment, ceux qui nous ont soutenus toute notre vie. Donc, cultiver la reconnaissance, c'est vraiment quelque chose que nous faisons ici tous les jours. Et nous, on le fait avec les coachs de vie. Ils ont des expériences, des exercices particuliers à faire. Dans la méditation également, c'est une occasion de cultiver la reconnaissance ou le pardon. C'est très simple et tout le monde le connaît, mais c'est tellement puissant, ça transforme complètement. D'apprendre à se pardonner d'abord, soi-même, de toutes les douleurs, les difficultés qu'on a causées, occasionnées à soi-même, ça fait partie de tous les processus de guérison, mais également nous pardonner nous-mêmes pour toutes les douleurs, les souffrances que là on a occasionnées aux autres. Et également pardonner pour les souffrances qu'ils nous ont apportées. C'est fait partie du processus que l'on fait ici dans la pratique de la méditation. C'est également quelque chose qu'on peut faire par ailleurs. Mais ici, on le fait par la méditation.
And of course, learning to be mindful, learning to be aware and awake and alive every moment of the day, learning to really savor, to really appreciate.
Et bien sûr, apprendre à être conscient, apprendre à vraiment savourer, à apprécier toutes les bonnes choses qui se passent dans notre vie. C'est vraiment très important. Et c'est au cœur de notre programme, c'est de cultiver cette pleine conscience, d'être ici, d'être avec les choses comme elles sont. Ne pas essayer de faire des choses, d'organiser des choses, de se soucier de ce qu'on a fait hier, mais vraiment apprendre à être avec ce qui est aujourd'hui. Et aider les gens à trouver leur force, leur point fort, c'est important, un processus important du coaching de vie. Chacun a des potentiels importants à l'intérieur d'eux-mêmes et souvent, ils ne se rendent pas compte. Donc, c'est une, quelque chose d'important dans le processus de coaching de vie, de trouver ses points forts et de les utiliser dans les différentes parties de notre vie, de trouver nos forces dans les relations, dans le travail, avec les enfants, dans nos temps morts et dans nos jeux. Et peut-être le dernier outil dont je parlerai, qui est aussi très important, c'est la pleine conscience. C'est très important d'apprendre à reconnaître les pensées pessimistiques. Et souvent, on a des pensées négatives et on ne reconnaît pas, on ne les reconnaît pas. Et en fait, on ne se bat pas contre ces pensées négatives. Donc, il faut cultiver de reconnaître ces pensées négatives et de les abandonner et de devenir plus optimiste dans notre vie.
Walking out in the rain, and I am listening to the long moan of the dial tone again, and I am getting nowhere with you, but I can't let it go, and I can't get through. And the old woman behind the pink curtain in the closed door on the first floor, she's listening through the air shaft to see how long our swan song can last. And both hands, please use both hands. Oh no, don't close your eyes. I am writing graffiti on your body. I am drawing the story of how hard we tried. How hard we tried. And I am watching your chest rise and fall like the tides of my life and the rest of it all. And your bones have been my bed frame and your flesh has been my pillow. I've been waiting for sleep to offer up the deep with both hands. Whoa, whoa, with both hands. Hands, please use both hands. Oh no, don't close your eyes. I am writing graffiti on your body. I am drawing the story of how hard we tried. How hard we tried.
Alors Jean-Carré, tu m'as accompagné pour toute l'interview et tu as traduit pas mal d'invités. Comment toi tu aurais senti ces 15 jours de séjour? Comment tu vois New Life?
Ce que moi j'ai remarqué, c'est que les gens qui sont ici ont vraiment un désir de partager, d'être ouverts par rapport aux autres, d'ouvrir leur cœur, d'offrir des petites intentions et d'actes de gentillesse. Et c'est vraiment particulier à cet endroit. Et je pense que c'est vraiment basé sur l'intention de Julien et de cette personne, cet entrepreneur fortuné qui a créé cet endroit. Ils l'ont créé à partir de la reconnaissance qu'ils ont pour... d'autres personnes qui ont redonné la chance de se nettoyer, d'aller au-delà de leur addiction. Et ça les a rendus très forts. Et à l'intérieur d'eux-mêmes, ça leur a permis vraiment d'exprimer les cadeaux, les compétences, les qualités, les talents qu'ils ont en eux-mêmes et de les offrir aux autres. Donc, par exemple, Julien, qui est le directeur de cette association, il rayonne maintenant, après avoir été moine pendant 8 ans et après avoir eu une addiction pendant 8 ans. Donc, je vois que tout le travail personnel qu'il a fait, tous les douleurs qu'il a eues, les traumatismes, maintenant il les transmet finalement cette alchimie qu'il a fait en lui-même pour dépasser ça et pour l'offrir aux autres et permettre aux autres de faire la même chose. Donc ça, ça me touche énormément par rapport à New Life.
Merci à Guillaume, Julien, Adam, Philippe, Patricia, Brandon, le joueur d'harmonica et enseignant de yoga, les chanteuses Kelly et Kim, et pour la traduction Shankari. Production Message de vie, Richard Federman, le lien de la New Foundation, www.newlifetailfoundation.com. À la semaine prochaine. Bye.